Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Donc l'Épître aux Galates que l'on étudie actuellement dans les fraternités. Mais ce matin, j'insiste sur un point qui est l'influence ou la volonté de persuader. Et dans ce texte, c'est un mot qui revient, alors avec la traduction en français, l'élégance oblige à ne pas trop insister, mais vous allez comprendre. Alors, Galates chapitre 5, et le partir du verset 6. Donc l'apôtre Paul écrit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Amen. Donc maintenant, je le relis un peu plus mot à mot par rapport à comment c'est écrit en grec. Donc c'est « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'être persuadé par la vérité ?» Et le mot c'est « persuader ». Cet effort de persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je suis persuadé en vous que dans le Seigneur, vous ne penserez pas autrement. Et donc ce mot revient trois fois. Trois fois, c'est persuasion. Et ils couraient bien, mais quelqu'un les a persuadés d'autre chose que ce qu'ils croyaient. Et le débat, c'est quoi? C'est entre la circoncision ou la foi. Alors bien sûr, nous, on le pose souvent, la foi, entre la grâce et la loi. La foi et les œuvres. Ici, les choses sont présentées différemment. En Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. La circoncision, c'est un rite imposé par la loi juive, la loi de Moïse. Un rite, d'ailleurs, qui même précède, puisque dès Abraham, Dieu dit à Abraham, ce sera le signe de l'alliance entre toi et moi, entre ton peuple et moi. Et ce signe, c'est la circoncision. Donc c'est un signe d'appartenance à un peuple. Mais Paul dit, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. Et la circoncision, c'est quoi? C'est mettre une marque visible dans votre corps. La circoncision, c'est ça. L'incirconcision, c'est ne pas avoir cette marque physique. Et la circoncision suppose que quelqu'un accepte de vous circoncire. Alors, quand on est juif de naissance, c'est à l'âge de 8 jours qu'il y a une cérémonie où on circoncit le bébé, s'il est de sexe masculin. Et si quelqu'un veut devenir juif et qu'il est déjà adulte, eh bien il se fait circoncire à l'âge qu'il a. Et même s'il a 70 ans, il faut qu'il soit circoncis. Vous voyez ? Mais si quelqu'un est même d'ascendance juive et se rend compte à un moment de sa vie que ses parents n'ont pas fait ce qui aurait dû être fait, eh bien il peut demander à être circoncis. Et dans certains hôpitaux, il y a des services spécialisés, justement, où les rabbins viennent, et l'acte de circoncision est fait dans toutes les règles de l'hygiène d'aujourd'hui. Vous voyez ? Mais ce qui est important, c'est que c'est une marque physique. Et Paul dit, en Jésus-Christ, c'est pas ça qui est important. Le baptême, par exemple, qui pour nous est le rite, si on veut prendre ce mot-là, mais c'est l'obéissance à un ordre de Jésus-Christ, pour ça qu'on dit le sacrement. Mais Jésus nous a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand vous sortez du baptistère, il n'y a pas de trace. Même pour effacer les traces, on vous donne une serviette pour qu'il ne reste plus d'eau. Voyez. Donc, comment savoir que quelqu'un est baptisé? Parce que c'est écrit sur un registre. La trace est extérieure. Elle n'est pas dans son corps. Et ceux qui poussaient les nouveaux chrétiens venant des peuples païens, non juifs, à se faire circoncire, voulaient avoir une marque de leur religion dans leur corps, voyez, et qui est une marque visible. Alors vous allez me dire, ça ne me concerne pas, je ne suis pas juif, c'est vrai. Mais il y a une mode qui se répand de plus en plus, c'est les tatouages. Et les tatouages, c'est une forme de circoncision. J'aime Jules, alors je me fais tatouer Jules. J'aime Juliette, alors je me fais tatouer Juliette. J'aime bien les chouettes, alors je me fais tatouer une chouette. Mais je veux appartenir à tel groupe de jeunes ou de moins jeunes, bien je me fais tatouer le signe de reconnaissance de ce groupe. Vous voyez ? C'est-à-dire que je veux qu'il y ait une marque dans mon corps de mon appartenance. Et c'est profond en nous. Et si les tatouages se développent tant, ce n'est pas tellement pour des raisons esthétiques. Parce que bon, il y en a qui sont beaux, mais il y en a, c'est pas si beau que ça. Vous voyez ? Bon, puis on les situe à des endroits de plus en plus bizarres. Hein ? Mais c'est cette volonté de s'afficher dans son corps. Et Paul dit, en Christ, l'affichage par le corps n'est rien. Que vous portiez une croix en tant que chrétien, ou que vous ne portiez pas une croix en tant que chrétien, ce n'est rien. Parmi nous, il y en a qui portent une croix, il y en a qui ne portent pas de croix, ce n'est rien. Personnellement, je ne porte pas de croix. Vous voyez ? C'est un choix. Mais je reconnais que d'autres font le choix d'en porter une. Et ce n'est rien. Ce n'est pas un sujet de débat entre chrétiens. Ce n'est pas un sujet que l'un est plus chrétien que l'autre. Ce n'est pas un sujet que l'un aime plus Dieu que l'autre. Vous voyez ? Parce que en Jésus-Christ, la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Ça veut dire aussi, je ne suis pas tributaire de ce que quelqu'un se permet, se donne le droit d'agir sur mon corps. Je dispose de mon corps, vous voyez, pour glorifier Dieu. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous invite. Et ça, ça ne laisse pas de traces. Ce qui va laisser des traces parfois, c'est la haine des autres. Et Paul dit, je porte dans mon corps les stigmates de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les coups que j'ai reçus, hein, les stigmates de Jésus-Christ, c'est pas que Paul avait des expériences spirituelles bizarres, où sa main se mettait à saigner, où il y avait des plaies qui s'ouvraient, c'est pas ça. C'est que quand il annonçait l'évangile, l'hostilité de ceux à qui il l'annonçait, eh bien fait qu'on lui jetait souvent des cailloux pour le faire mourir. C'est arrivé 3 fois. 3 fois, j'ai été lapidé et on m'a considéré comme mort. Heureusement, il n'était pas mort. Il était mourant, mais il n'était pas mort. Voyez, mais il a gardé les traces. Et de tous ses coups reçus et aussi les coups de fouet avec lesquels on l'a battu, il a gardé les traces. C'est pour ça qu'il peut écrire « Je porte en moi les stigmates de Jésus-Christ ». Mais ce n'est pas un signe de reconnaissance. Donc Dieu ne vous demande pas de vous flageller pour prouver que vous êtes chrétien, de vous scarifier, pour prouver que vous êtes chrétien et que vous savez résister à la douleur. Voyez, Dieu ne le demande pas. Et ça ne fait pas du tout partie des exigences de la parole de Dieu. En Jésus-Christ, ces choses ne sont rien. Qu'est-ce qui est quelque chose ? Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Voilà ce qui est quelque chose. Alors nous, c'est vrai que nous disons souvent, nous avons la foi. Et sur pas mal de nos documents, de nos traités d'évangélisation, de sites chrétiens qui invitent à devenir chrétien, à la fin, vous avez une prière. Voyez. Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi. Amen. Et je suis devenu chrétien. C'est vrai, mais c'est un peu court. C'est un peu court. Et toujours se dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, c'est un peu court. Paul dit la foi qui est agissante par l'amour. Qu'est-ce qui prouve que j'ai la foi ? Eh bien justement, je n'ai pas de preuve dans mon corps. Mais c'est mon comportement, mes actions, la façon dont je pense aux autres dans ma tête, et ça c'est invisible. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un quand vous le voyez ? C'est totalement invisible. Alors il y a des gens transparents, ça va se voir tout de suite. Vous voyez, ils font ça. C'est qu'ils sont contents de vous voir. Ils font ça. Là, ça veut dire qu'ils ne sont pas très enchantés de vous voir. Vous voyez. Mais il y en a d'autres qui sont impassibles. Vous voyez. Et vous ne saurez jamais ce qu'ils pensent de vous. Vous voyez. Donc ce qui est important, ce qui a de la valeur en Jésus-Christ, ce n'est pas l'apparence que je donne avec mon corps. Je suis content de te voir ou je ne suis pas content de te voir. Pas ça qui a de la valeur. Oui. Et dire qu'il faut avoir un sourire pour accueillir les autres, c'est vrai. Mais si ça ne correspond pas à la réalité du cœur, ça n'a pas de valeur en Jésus-Christ. Ça reste le corps. Oui. Mais quels sont mes sentiments profonds vis-à-vis de celui qui est en face de moi ? Et ça, c'est ce que Dieu regarde. Et si la foi en Jésus-Christ fait que ces sentiments sont devenus des sentiments d'amour, alors la foi est agissante par l'amour. Et ces sentiments vont forcément se traduire par des actions. Voyez ? Mais si ma foi en Jésus-Christ fait que je continue de mépriser les autres, d'avoir des mauvaises idées sur les autres, de ne rien vouloir leur donner et de penser toutes sortes de choses mauvaises sur eux, ou de vouloir profiter d'eux, ma foi n'est pas agissante par l'amour. Donc elle est peut-être réelle, et il n'est pas question de la mettre en doute, mais elle manque de valeur. Et pour qu'elle prenne de la valeur devant Dieu, eh bien il faut qu'elle construise l'amour, et qu'elle laisse la parole de Dieu, le Saint-Esprit, construire l'amour. La foi est agissante par l'amour. Et les Galates, je vous rappelle que la Galatie, hein, c'est au centre de la Turquie, donc les Galates avaient commencé sur cette voie-là. Et puis il y en a qui sont venus les influencer. Vous courriez bien, qui vous a arrêté, stoppé? Ils ont été stoppés net dans leur élan. Parce que certains leur ont dit, ouais, c'est bien là ce que vous dites Jésus, 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 la foi, l'amour, etc. Mais il n'y a rien de visible. Faites-vous circoncire. Et puis mangez cachère. Arrêtez de manger du cochon. Comme ça, on verra de façon visible que vous êtes chrétien. Et qu'en tant que chrétien, eh bien, vous ne méprisez pas l'origine juive d'où vient Jésus-Christ, puisque Jésus est juif. Voyez ? Et c'est le discours qu'on leur tenait. Vous ne pouvez pas avoir la foi, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas être membre du peuple de Dieu si vous ne vous faites pas circoncire et si vous ne vous soumettez pas aux exigences du judaïsme. Et apparemment, les Galates ont gobé. Ils ont été stoppés. Et Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de Jésus-Christ. Mais elle vient d'autres personnes que Jésus-Christ. Mais j'ai cette confiance en vous, je suis persuadé que vous allez vous ressaisir, vous allez vous reprendre, et vous allez penser comme moi. Et là, Paul se présente comme apôtre. C'est pour ça qu'au début de l'épître, il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni d'un homme, mais envoyé par Jésus-Christ et Dieu le Père. Vous voyez, donc il met tout le poids de celui qui l'a appelé et qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et il dit, moi, Paul, je vous dis non, ce n'est pas une bonne voie. Et j'espère, je suis persuadé en mon fort intérieur, mais aussi je prie pour ça, que vous allez penser comme moi. Alors pour nous, aujourd'hui, certains parmi nous veulent influencer les autres. Certains aiment se faire influencer. Certains subissent l'influence des autres. Oui. Et ce n'est pas toujours pour le bien. n'est pas toujours pour le bien. Et on peut être stoppé net. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous commencez à parler en langue. Vous lisez un livre anti-charismatique. Et puis après, vous avez peur de votre parler en langue. Et vous ne parlez plus en langue. Bon, ben, vous avez été influencé. Ce que vous avez lu vous a influencé. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce que vous avez lu vient de celui qui vous a appelé, Jésus-Christ? Et la question, ça va être ça, parce qu'après, chacun d'entre nous, on est avec notre conscience. Et les influences, eh bien, ça va toucher notre conscience. Et c'est notre conscience, notre volonté, nous allons avoir des choix. Et je voudrais bien examiner ce matin, bon, pas tellement comment on est influencé, mais d'où vient cette volonté d'influencer. Comme si parfois il y avait quelque chose qui serait plus que l'Évangile, ou une meilleure compréhension de l'Évangile que les autres. Et on veut absolument le partager avec les autres et dire, bien, il faut que tu crois comme ça, il faut que tu crois comme moi. Il faut que tu penses comme moi. Oui. Ça, c'est la volonté d'influencer. C'est la volonté de persuader. Parfois, c'est légitime. Parfois, ce n'est pas légitime. Alors, comment je vais savoir si c'est légitime ou pas? D'abord, c'est qu'est-ce qui se passe toujours. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. C'est-à-dire, si je veux influencer quelqu'un et qu'il refuse, est-ce que j'en conçois de l'agacement? De la haine, de la colère, vous pouvez être sûr que votre volonté de persuader ne venait pas de Dieu. Je ne parle pas aujourd'hui des prophéties. Charles en a parlé dimanche dernier. Si quelqu'un vient vous voir à la fin du culte et vous dit « Dieu m'a dit ça pour toi », bon, c'est une manière d'influencer. Mais il y a d'autres manières d'influencer. C'est d'aller voir quelqu'un et dire bah, « J'ai vu, il y a ça qui ne va pas en toi ». Ah oui, mais de quel droit tu me dis ça? Jésus a dit, si ton frère il a une paille dans son œil, vous connaissez Matthieu chapitre 7, on peut le lire ensemble. Matthieu chapitre 7. Donc c'est un premier exemple de volonté d'influencer l'autre. Matthieu chapitre 7. On va prendre à partir du verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Donc quelqu'un parle à son frère, à sa sœur, et lui dit, voilà, j'ai vu qu'il y a une paille là, il y a quelque chose. Bon, t'es chrétien, t'es chrétienne, c'est vrai, mais il faut que je te dise, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en toi, quoi. Non, c'est vrai, chaque fois que je te vois, tu me regardes au travers. Bon, mais peut-être la personne est myope, hein. C'est peut-être un problème corporel, vous voyez. Elle a fait du strabisme divergent, vous voyez. Mais l'autre interprète en disant, ouais, tu me fais... d'un sale œil, quoi. Tu me regardes d'un sale œil. Ouais. Et il y a une paille dans ton œil. Ouais. Ça peut être sur autre chose. J'ai vu, quand tu prends le repas, tu ne rends pas grâce comme moi. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et Jésus dit, avant de dire ça à l'autre, es-tu sûr qu'il n'y aurait pas une poutre dans le tien? Et avant de vouloir influencer l'autre, avant de vouloir corriger l'autre, assure-toi qu'il n'y a pas d'abord une poutre dans ton œil. hypocrite, et là Jésus emploie le mot fort, mais celui qu'il faut, hypocrite, ôte premièrement la poutre. Et c'est quoi la poutre? Eh bien, la poutre, c'est si l'hôte ne me laisse pas enlever la paille, je vais le donner au chien. Et regardez bien, il y a des gens avec qui vous vous entendez très bien. Et puis un jour, justement, vous leur suggérez, vous leur conseillez, vous leur laissez comprendre. Parce qu'on est malin quand même. On ne va pas toujours dire, ouais, il y a vraiment ça qui ne va pas en toi, bon maintenant, il faut que tu changes. Bon, ça, c'est la manière brutale. Mais il y a des manières plus souples, plus douces. Hein. Ce serait bien que tu ne fasses plus ça. Ce serait bien que tu fasses ça. Oui. Et l'autre ne veut pas. Tout d'un coup, vous en concevez de la haine contre lui dans votre cœur. Et alors que vous étiez proche, vous n'êtes plus proche. Pourquoi? Parce qu'il y avait une poutre. Il y avait une poutre. Il y avait une volonté de dominer. Et la volonté de dominer, eh bien, va devenir de la haine jusqu'à donner au chien. C'est-à-dire qu'après, vous allez dire du mal de cette personne. Alors qu'avant, vous en disiez toujours du bien, vous allez en dire du mal. Et Jésus dit cette poutre, pour ça que ça vient à la suite, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et les choses saintes, c'est quoi? C'est chacun d'entre nous. Nous sommes une chose sainte de Dieu. Chaque frère, chaque sœur est quelqu'un qui est précieux devant Dieu. Christ est mort à la croix pour lui, pour elle. On l'a rappelé tout à l'heure en prenant le pain et le vin. Et est-ce que moi je peux jeter au chien quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort? Ouais. Et même si quelqu'un s'éloigne de l'évangile, on va prier pour lui. On va intercéder. On va demander à Dieu qu'il le ramène. Voyez, mais on ne va pas le jeter au chien. Et c'est là qu'il faut bien qu'on examine son cœur. J'ai voulu dire à un tel ou un tel de faire ceci, de faire cela, de changer de telle ou telle manière. J'examine pas le point, est-ce que j'avais tort, est-ce que j'avais raison sur le fond. Mais si l'autre ne va pas dans le sens de ce que je veux, quelle est mon attitude ensuite? Et si vous n'êtes pas capable de continuer d'aimer cette personne autant qu'avant, eh bien il y avait une poutre dans votre œil. Il y a quelque chose dans cette volonté d'exhortation qui ne venait pas de Dieu et ce qui demande repentance. Et vous voyez que tout ça, ce n'est pas comme la circoncision. La circoncision, c'est facile, hein, une fois que c'est fait. Bon, c'est, quand on est adulte et qu'on est circoncis, c'est douloureux. C'est comme chez le dentiste. Bon. Mais après tout, ça permet aux hommes d'éprouver un peu ce qu'éprouvent les femmes quand elles accouchent. Voyez. Donc c'est peut-être une justice. Hein. Mais c'est douloureux sur le moment. Mais d'après la Bible, au bout d'une semaine, c'est passé, quoi. Puisque du temps de Jacob, un de ses fils a obligé toute une ville à se circoncire. Ils ont mis une semaine pour se guérir. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on a les anesthésiants, les choses contre la douleur, vous voyez. Donc, c'est encore moins douloureux qu'avant. Mais on se fait circoncire, ça peut être douloureux, on peut se faire moquer par les autres, ah, t'es devenu juif, tout ça, bon. Puis c'est terminé. Mais la foi agissante par l'amour, c'est à chaque instant. C'est invisible, mais à chaque instant. Voyez. Et Dieu nous demande de laisser sa parole, son esprit, examiner nos cœurs. Vous voyez, je vous donne un exemple précis. Vous voulez influencer quelqu'un, il ne se laisse pas influencer. Est-ce que votre amour, par la suite, est d'égale qualité qu'avant? Si ce n'est pas le cas, il y avait une poutre. Il faut reconnaître la parole de Dieu dans ce qu'elle dit. Oui. C'est-à-dire, Seigneur, bien, je te demande pardon, et je te demande, libère-moi de cette poutre. C'est-à-dire cette volonté de diriger la vie des autres, de changer les autres, de transformer les autres, et plus grave, non pas les mettre à l'image de Dieu, mais les mettre à mon image ou à l'image de mes conceptions. Et c'est de vouloir que tout le monde rentre dans mes vues, mes conceptions, ma manière de comprendre, ma manière de faire. Bien ça, c'est, Jésus en a très bien parlé, je n'en dis pas plus. Alors maintenant, On peut s'auto-persuader. Luc chapitre 16. Donc on peut s'auto-persuader qu'on est quelqu'un de bien. Pas si ça vous arrive. Il y en a qui se regardent dans la glace et puis ils disent Ah oui, je suis vraiment beau, hein, je suis vraiment bien, hein, je suis un gars bien, je suis une fille bien. Non. Ah, puis là, franchement, non, hier j'ai bien travaillé, j'ai rapporté 10 000 euros à mon patron, j'ai levé une affaire, je suis vraiment quelqu'un de bien. Oui. Bon, mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette auto-satisfaction et cette auto-persuasion que nous sommes des gens bien? Alors, Luc chapitre 16. Verset 31, puis après je vais vous en lire un autre. Donc là, c'est la fin de la parabole du mauvais riche et de Lazare. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc c'est est-ce que je suis perméable à la parole de Dieu? Ou est-ce que je suis autiste par rapport à la parole de Dieu? Si je suis autiste par rapport à la parole de Dieu, bien même qu'il y ait des miracles, des guérisons, etc., ça ne me persuadera pas. Parce que tout ce que Dieu fait, j'aurai ma grille d'explication pour dire c'est pas Dieu. Et pour dire il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de divin là-dedans. Donc ça, si vous voulez, c'est un point. Mais il y a un autre point, c'est Luc 18, un peu plus loin, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Et donc, qu'est-ce que Jésus nous dit? Et pourquoi il le dit? C'est ça qui est important, c'est pourquoi il le dit. Et là, c'est clairement précisé. Jésus le dit en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, c'est le contraire de Matthieu 7. Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit « Je veux influencer l'autre. » Ici, c'est quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et, vous voyez, un peu sur un piton, puis il regarde les autres comme des moins que rien. Et puis, il est tout content de dire « Moi, au moins, ici, dans ma petite forteresse, moi, je suis bien. Je suis juste. » Et puis, il se donne des raisons. Oui, mais toujours pareil, des raisons visibles. Pourquoi il est juste? Je jeûne deux fois par semaine, aïe 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 les crampes d'estomac, voyez, et je donne la dîme de tous mes revenus. Et ça doit faire mal quand il faut les lâcher. La dîme, c'est douloureux. Ouais, ce n'est pas la dîme donnée avec joie, mais c'est la dîme donnée douloureusement. En disant, bon, il faut faire ça pour vraiment être approuvé de Dieu. Mais puisque je le fais, malgré le mal que ça me fait dans mon cœur, et puisque je jeûne, malgré le mal que ça fait à mon estomac, alors je suis juste. Donc c'est sur des raisons corporelles, encore une fois, extérieures, qu'il s'estime juste. Et qu'il se persuade, vous voyez, c'est ça le pire, c'est qu'il se fait son cinéma dans la tête, et il se persuade qu'il est juste. Mais il a coupé tous les ponts avec ceux qui ne sont pas justes. Je ne suis pas comme les autres. Alors, il part de très loin, hein, voyez. Le reste des hommes qui sont des ravisseurs, comme si à tous les coins de rue, il y avait quelqu'un qui cherchait à ravir les autres, voyez, injuste, adultère, ou même, et là il regarde quand même plus près de lui, ou même comme ce publicain là qui est à 2 mètres de moi. Même lui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs? Moi, je me rappelle toujours, il y avait quelqu'un qui venait ici, j'avais été voir son mari, il monte sa femme comme ça, et vous acceptez ça dans votre église. Parlez de sa femme, oui. Ça. Vous acceptez ça dans votre église. Oui. Bien, ce pharisien, il est comme ça. Il voit, il imagine les adultères, les ravisseurs, tout ça. Puis tout près de lui, il voit un publicain. Il dit, bah dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait dans le temps de celui-là, hein? Comment il peut se permettre d'être là? Ça ne devrait pas être permis que des gens comme ça rentrent dans une église. Oui. Et il est dans sa justice, persuadé d'être juste. Et Jésus lui dit, mon gars, tu as tout faux. Tu as tout faux. Et devant Dieu, quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas avoir de grandes surprises. Parce que tu n'es pas justifié. Tu t'es justifié à tes yeux, mais Dieu ne t'a pas justifié. Et la foi est agissante par l'amour. Elle se fonde sur la grâce de Dieu. Seul Dieu nous justifie par le sang que Jésus a versé à la croix. Et toute autre forme de justification est illusion, est auto-persuasion. Oui, se persuade. Et le pire, c'est qu'on peut multiplier les actes pour se persuader d'être juste. Et faire plein de choses pour être sûr qu'on est juste. Mais ça ne nous rend pas juste. Et moi, je vois parfois, il y a des dialogues difficiles avec des personnes. Pourquoi? Parce que on leur parle d'une chose et elles égrènent les choses qui, à leurs yeux, démontrent qu'elles sont justes. Oui, mais je fais ça. 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 Oui, mais tout de suite, on ne parle pas de ça. On parle d'autre chose. Oui. Et Dieu ne dit pas, tu as tort de donner la dîme. Dieu ne dit pas à cet homme, tu as tort de jeûner. Tu as tort d'aller à la synagogue. Tu as tort d'aller tous les dimanches au culte. Dieu ne dit pas ça. Tu as raison de le faire. Mais si tu crois que c'est ça qui te justifie, tu te trompes. Oui. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'il faisait était mal. Mais ce qui était dans son cœur, vis-à-vis de lui-même, je suis juste par moi-même. Et vis-à-vis des autres, pour être encore plus sûr que je suis juste, je me donne des preuves que les autres ne le sont pas. Mais donc je vais à la limite faire fouiller dans leur vie pour être sûr qu'il y a des fautes dans leur vie, pour dire je suis seul à être juste. Bien ça, c'est s'auto-persuader de façon erronée, voyez, et être dans le mensonge. La propre justice, comme on l'appelle, est un mensonge. Troisième point toujours sur cette volonté de persuader, si vous voulez. Parce qu'on est quand même rusé avec nous-mêmes. Premier épître de Jean. Premier épître de Jean, chapitre 3. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Vous voyez qu'on ne peut pas, séparer le commandement d'aimer avec croire en Jésus-Christ. Et petite parenthèse, c'est ce que fait notre société. Nous sommes dans une, alors je ne vais pas prendre le mot qui fait débat, une civilisation chrétienne, on va dire une culture chrétienne, pour ne pas choquer personne, vous voyez. Mais nous sommes dans des pays de culture chrétienne où il est communément admis que la plus grande des valeurs, c'est d'aimer l'autre, même si très peu le font et réussissent à le faire. Mais ça reste l'idéal de beaucoup. Et ça, c'est un fruit de l'Évangile. Maintenant, peut-on aimer l'autre sans croire en Jésus-Christ? La Bible dit clairement non. C'est par la foi en Jésus-Christ que Dieu va créer l'amour en nous, pour les autres. La foi est agissante par l'amour. Oui, les deux choses sont liées. Et c'est là aussi parfois que les non-chrétiens veulent persuader les chrétiens d'entrer dans les combats des non-chrétiens au nom de l'amour. Mais ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on doit être vigilant. Parce que c'est d'abord la foi en Jésus-Christ et ensuite l'amour produit par cette foi. Mais là, je voudrais insister sur un point qui est la culpabilité. Et pour certains, il y a moyen de faire du bien à bon compte en persuadant les autres de choses dont ils ne sont pas capables eux-mêmes. Alors tous ceux qui fréquentent des conseils d'église, conseils de mairie, conseils de quelque association que vous soyez. Moi j'ai remarqué ça, on est quand même dans différentes associations. C'est ceux qui crient le plus fort et qui veulent obtenir les décisions les plus radicales. Quand on les met en œuvre, ils sont plus là. Ils sont plus là. Et ils ont vraiment ferraillé pour dire oui, il faut aller dans ce sens-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Là. On finit par céder et par le faire. Ils sont plus là. Et ils vivaient simplement dans la volonté de persuader. Mais il y a quelque chose qui est parfois profond, et ça ne touche pas tout le monde, hein, mais certains, ça va vous parler. C'est un habillage de la culpabilité. Et là, j'en parle de ça. Comment j'habille ma culpabilité? Si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Alors, Jean d'abord dit, voilà ce qui est normal. Tu crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit d'aimer son prochain. Ben, il n'y a pas de problème. Tu aimes ton prochain en parole et en acte. Comme dirait l'autre, ça coule de source. Ça, c'est ce qui devrait être. Et j'espère que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. On peut toujours faire mieux, prier pour que ce soit mieux et que Dieu nous aide à progresser. Mais j'espère qu'on est sur cette route-là. Maintenant, il y en a qui sont bloqués et s'arrêtent aux paroles. Les paroles de persuasion. C'est pour ça que quand il dit « n'aimez pas en parole seulement, mais en acte », ce n'est pas seulement comme on dit des beaux parleurs, c'est pas ça. C'est, il y en a qui vont parler pour obtenir quelque chose de bien pour les autres. Mais ils ne sont pas là après pour la réalisation. Mais pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils savent que dans leur cœur, ils n'aiment pas les autres. Et leur cœur les condamne. Et c'est pour ça qu'il fait ce « si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. » Alors, ce n'est pas en rusant avec votre cœur que vous allez sortir de la culpabilité. C'est en confessant vos fautes à Jésus-Christ que lui va vous pardonner et effacer le sentiment de culpabilité. Mais pas seulement le sentiment, c'est parce que votre faute a réellement été portée à la croix. À la croix, il y a 2000 ans, Jésus a réellement porté la faute. Et quand je confesse mon péché. Et quand je mets ma foi en Jésus-Christ, ma faute est réellement enlevée. Et l'absence de sentiment de culpabilité et la paix qui s'ensuit n'en est que la conséquence. C'est pour ça que Dieu ne cherche pas à nous enlever le sentiment de culpabilité. Dieu veut nous persuader, pour le coup, que nos péchés ont été portés à la croix et que nous n'avons plus à nous sentir coupables. Mais quand on est chargé de sa culpabilité, eh bien, ça va déborder sur les autres. Et on va vouloir persuader d'autres de choses qui nous posent problème. Et influencer les autres de choses qui nous posent problème à nous. Pas à eux, mais à nous. Et alors, on va aimer en parole. On va vouloir influencer en parole. Et Jean dit, arrêtez de ruser avec votre cœur et de faire comme si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Donc comme le lieu de la foi et le lieu de la spiritualité, c'est l'intérieur de nous-mêmes, vous appelez le cœur, vous l'appelez l'âme, vous l'appelez l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, mais le cœur est une façon d'en parler, eh bien, il faut laisser Dieu examiner notre cœur, le Saint-Esprit examiner notre cœur, et que lui fasse son travail de persuasion en nous. Et Dieu vous convaincra que à la croix, tout ce que vous avez à vous reprocher a été porté et ne pèse plus sur vous. Et votre relation aux autres sera beaucoup plus saine. Alors voilà, c'est le dernier point. Il y a ceux d'abord qui veulent absolument persuader, mais ne se rendent pas compte qu'il y a une poutre. Leur volonté de domination les amène à basculer dans la haine quand on ne fait pas ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui sont dans leur forteresse, propre juste, et tous les autres sont des moins que rien. Et c'est une autre maladie, on va dire. Et puis il y a un troisième cas, c'est, eh bien, je projette ma culpabilité sur les autres. Et j'essaie de leur parler pour les faire changer, parce que je suis mal en moi-même. Et bien, d'abord que je résolve ça avec Dieu. Et si vous êtes mal en vous-même, le seul lieu pour que ce soit résolu, c'est la croix. Il n'y en a pas d'autre. Venez à Jésus-Christ, croyez ce qu'il a fait à la croix, recevez sa paix, et après vous saurez comment parler et comment aimer les autres. Parce que ça vient de cette œuvre. Oui. Voilà, j'en reste là cet après-midi pour ceux qui n'iront pas à Côte-Bec. On verra la suite, c'est-à-dire l'évangile, c'est aussi une persuasion.